ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Aujourd'hui, nous sommes avec Alain Rozac. Bonjour. Merci d'avoir pris du temps pour venir nous parler de votre travail, de vos compétences. En effet, vous êtes un spécialiste, j'allais dire, de toutes ces questions du climat, du développement durable. Parce que vous êtes technicien et je vous ai demandé de venir parce que vous avez fait une formation auprès de Mgr Guy Carimel. Une formation qui était, il n'y a pas longtemps, destinée à tous les responsables des cultes chrétiens, c'est-à-dire orthodoxes, protestants, réformés et anglicans, et les diacres et les pasteurs, ceux qui ont des responsabilités dans leurs églises. Alors, bon, il n'y avait pas tous les groupes chrétiens et ce n'était pas ouvert non plus à nos amis juifs ou musulmans qui sont aussi impactés par le climat. Mais vous êtes venu, alors je dis souvent, ah ben, vous êtes venu nous présenter un jeu. Mais c'était plus, c'était pas qu'un jeu, c'était, vous êtes venu nous annoncer qu'il y a un drame, il y a une catastrophe, que nous allons tous mourir.
Oui, c'était un jeu sérieux. Bonjour à tous. C'est un jeu où, dans une première partie, on présente effectivement l'état des lieux sur le climat et sur les prédictions, qu'est-ce qui peut arriver dans le futur. Donc ça, c'est une première partie. Et la deuxième partie, effectivement, c'est un peu plus ludique, c'est un atelier. On va essayer de voir pour chacun des grands domaines de nos vies, transport, logement, consommation, alimentation. On va essayer de voir où on en est aujourd'hui et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour demain pour pouvoir arriver à des objectifs qui soient compatibles d'une belle vie sur Terre.
Donc, c'est à la fois des rapports scientifiques, mais c'est aussi une réflexion, j'allais dire, philosophico et même théologique, puisque vous aimez évoquer Laudato aussi et certains textes du pape. Mais votre point de vue n'est absolument pas, chrétien ou d'une confession particulière. Vous vous situez au niveau technique et scientifique.
Tout à fait. J'ai vraiment... il y a 20 ans, hein, 25 ans, lorsque je débutais mon métier, je n'avais pas du tout ces préoccupations environnementales en tête. Et j'ai commencé à travailler sur le domaine du CO2, hein, la mesure du CO2 dans l'atmosphère par satellite. Et donc là, les scientifiques m'ont présenté l'état des lieux, les courbes, qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce qui se passe. Et là, j'ai ouvert des grands yeux, j'ai dit mais c'est catastrophique. Et oui, donc j'ai commencé à m'intéresser au sujet à travers ça, à travers mon travail. Il y a un peu plus de 20 ans.
Moi, je suis sociologue, j'aime à le rappeler. C'est-à-dire que quand je dis que je suis d'une neutralité axiologique, je n'ai pas dans mon travail à dire si mes convictions vont plus à droite ou à gauche, si je suis plutôt pour ceux qui n'ont pas beaucoup de sous ou pour ceux qui veulent le CAC 40, ou si on part dans la métaphysique. Mais en même temps, il m'arrive très souvent dans cette émission de dire « ma foi ». Ma foi, c'est quoi ? Alors, Dieu dans tout ça, par rapport aux taxes carbone, on va dire, alors c'est le Big Bang et c'est Dieu qui a créé l'univers. Moi, je n'ai aucune compétence là-dessus, peut-être vous non plus. Mais vous savez au moins qu'il y a un certain nombre de chercheurs, depuis d'ailleurs Hubert Reeve, n'est-ce pas ? Poussière d'étoiles.
Oui.
Nous sommes tous des poussières. Ça, c'est un mystère. Et là, certains vont entrer dans la contemplation, et puis d'autres vont dire, eh ben oui, mais nous savons que le soleil lui-même va mourir. N'est-ce pas ? Alors,
oui.
On lit des émissions d'Arte, mais c'est magnifique, c'est fabuleux, c'est mystérieux. Et moi, eh ben, je n'ai plus rien à dire comme sociologue. Mais je vais vous demander de dire, alors, pour chacun de ces quatre lieux où nous avons, nous, c'est-à-dire le citoyen, c'est-à-dire l'homme honnête, de bonne foi, qu'est-ce qu'il peut changer ? Alors, pour aller acheter des produits, ou bien pour se vêtir, ou bien pour circuler en voiture, ou en avion, ou en vélo. Et vous êtes venu en vélo.
Et je suis venu en vélo, oui.
Des convictions, ou c'est
des convictions. Alors, je crois que la première fois que j'ai pris mon vélo, c'est parce que la voiture était en panne. Et là, je me suis aperçu que ça allait plus vite que la voiture.
Et ça coûte moins cher.
Et après, c'est venu la réflexion, effectivement. Alors, pourquoi utiliser un moyen qui est plus cher et qui va moins vite, hein, suivant les embouteillages, et qui est moins agréable? Et là, j'ai commencé à réfléchir. Effectivement, j'ai commencé à abandonner la voiture. On est passé de 2 voitures à 1 voiture, de 1 à 0. Et maintenant, on n'a plus de voiture.
Et vous avez annoncé 4 points et on n'a même pas commencé.
Si, on est un petit peu dans les transports. Voilà, on a un bon exemple dans les transports. Alors, le but, justement, de l'atelier, c'est de faire réfléchir les gens parce qu'il n'y a pas une solution unique. La solution que j'ai, moi, bah, c'est ma solution en fonction de ma famille, de mes enfants, du nombre qu'on est, de la localisation où on est. Mais je dirais que chacun doit trouver sa solution. Et le but de l'atelier, c'est effectivement de réfléchir, de ne pas voir qu'il y a une seule solution, mais de chacun réfléchir à quels sont les poids qui sont importants. Certains vont avoir un peu... On va avoir besoin de dépenser, on va dire, un peu plus de CO2 dans le transport, un peu moins dans l'alimentation, par exemple. D'autres vont préférer un peu plus de dépenser dans le logement, un peu moins dans la consommation. C'est un petit peu à chacun de voir son point de fonctionnement, où il peut arriver.
Alors, j'aime bien vous dites chacun. Bon, aux personnes qui acceptent de venir dialoguer avec moi, je dis... On, ça veut dire que ces personnes, on ne sait pas qui c'est. Quand vous dites chacun, moi, je suis tout de suite enclin à dire que c'est la tension et le conflit dans les familles, entre générations, et que ce qui est bon pour moi, je n'arrive pas forcément à le faire partager aux autres. Alors, ceux qui sont venus justement pour faire ces ateliers, ils se sont réunis par 3 ou 4, ou plutôt 4 oui. ou 5, et ils ont commencé à voir... Techniquement, combien ça coûte en kilos ou en tonnes? Et ça veut dire que quoi? Si on consomme combien de tonnes de CO2 par an, chaque Français?
Alors, en moyenne, et il faut faire attention aux chiffres, en moyenne, oui. on consomme 10 tonnes de CO2 par Français.
Bon, ça veut dire qu'il y a les riches et les pauvres, il y a ceux qui gaspillent, il y a ceux qui sont à 7.
Voilà.
Donc, c'est une moyenne qui ne veut rien dire, mais qui parle.
Et il faut passer de 10 à 2, c'est-à-dire voilà. divisé par 5. Et là, on s'aperçoit que c'est quand même énorme comme cap à franchir.
C'est là où vous allez engendrer des conflits dans les familles entre ceux qui sont pour le compost et puis ceux qui n'ont pas l'habitude, entre ceux qui font beaucoup les cendres.
Je suis désolé, mais je crois que la loi a tranché, le compost devient obligatoire.
Ouais, mais ça,
donc on est sur un bon exemple
non,
où effectivement la loi a tranché.
La vitesse en ville, 30 km. Moi, ça me fait rire chaque fois que je passe à 35 en vélo, parce oui. que ça descend, hein, quand ça monte, je suis à 15. Mais ne rions pas, le sociologue va vous dire qu'une loi sans sanction n'existe pas.
Exactement, alors, c'est ce qu'on voit, la loi est passée, mais personne ne le fait parce qu'il n'y a aucune sanction et rien n'est proposé aux gens pour le faire.
On n'est pas convaincu. De nouveau, chacun n'est pas convaincu, c'est en conscience qu'il faut accepter la règle. Alors moi, je vais vous dire, les 10 commandements. Ben, les 10 commandements sont chaque jour violés. Et alors, sinon, ça serait triste pour ceux qui écrivent des romans policiers. Ou bien, je lis, par exemple, le psaume 24. « Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui aime ton alliance. » Mais qui parle de l'alliance aujourd'hui? Nos amis juifs, de qui on tient ce psaume? Pourquoi pas? L'alliance dans l'islam, pour moi, c'est une vraie question avec mes amis musulmans. Mmh. Et par contre, je dis, oui, il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Alors là, les pécheurs, je ne comprends plus rien. Comme sociologue, agnostique, ça veut dire quoi? Le péché, la faute, la responsabilité. Vous comprenez que je suis en train de mélanger différents niveaux d'analyse. Alors, heureusement que je vois que vous avez les pieds sur terre et pas seulement dans les étoiles. Vous avez apporté des planches de couleurs. Il y a l'alimentation, c'est en vert. Il y a la consommation, c'est en jaune. Et alors, on va calculer.
Oui.
Je vous écoute. Comment passer de 10 kilos, de 10 tonnes à 2 tonnes, par an.
Alors, le but de cet atelier, c'est d'une part, effectivement, de faire prendre conscience aux gens de l'objectif. Donc, c'est pas juste je vais changer de voiture pour une voiture qui consomme un peu moins et je vais mettre trois bouts d'isolant sur ma maison et tout va aller bien. Non, c'est vraiment de prendre conscience que c'est un énorme changement. Comment on va y arriver? Je crois que un deuxième aspect de cet atelier, c'est de faire comprendre qu'on ne va pas y arriver seul et que c'est pas chacun qui va y arriver. C'est « on » la collectivité. Et « on », ça va être la collectivité et donc forcément la politique, les hommes politiques, ceux qui sont en charge, d'organiser, au sens noble du terme, d'organiser la vie dans notre société.
Il y a des réseaux, il y a des associations. Alors là, ça me parle. Parce que justement, je vois comment chacun ne peut pas vivre dans son île déserte et que vous faites un travail considérable de conscientisation. Mais vous êtes un petit peu un prophète de malheur quand même, un peu, non? Ou bien vous êtes quelqu'un qui...
Il y a des jours où je serai un prophète de malheur, mais il y a d'autres jours où je dirais que la vie telle qu'on l'a aujourd'hui dans notre société, et c'est mon avis, elle n'est pas si bien que ça. Et qu'aujourd'hui, voir qu'on doit changer énormément de choses, bah justement, c'est peut-être l'occasion de re-réfléchir à notre objectif. Qu'est-ce qu'on veut que soit la vie? Vers où on veut qu'elle aille? Et comment on peut s'organiser pour ça? Et avoir une vie meilleure à la fin. Je suis persuadé qu'à la fin, ça sera mieux.
C'est pour ça que vous nous avez amené le beau chant de...
d'Alain Souchon.
D'Alain Souchon, et qui nous parle un petit peu des étoiles, mais aussi de notre vie, les pieds sur terre.
Voilà, et de qu'est-ce que désire l'homme, en fait?
Ben merci Christophe de nous la faire passer. Nous sommes avec Alain Rossac et vous venez nous parler de l'environnement, de l'écologie. C'est votre travail et en même temps, vous êtes, j'allais dire, un lanceur d'alerte, mais qui nous montre que le bonheur est possible.
Tout à fait. Et j'aime beaucoup cette chanson donc, d'Alain Souchon, « Foule sentimentale », qui est une chanson qui est quand même ancienne. Hein, je n'ai pas regardé, mais peut-être 15 ans, 20 ans, je ne sais plus.
Oui, oui.
Et qui est, on va dire...
prémonitoire.
Voilà, prémonitoire. « Foule sentimentale », on a soif d'idéal, on a envie des étoiles, que des choses pas commerciales. Et ça illustre bien ce que je disais tout à l'heure, vers quoi on veut aller. Finalement, on se rend compte quand on pose la question, et notamment on pose la question à travers l'atelier, le jeu, où vous voulez aller, qu'est-ce qui vous fait plaisir dans vos vies?
Mais on ne va plus vivre. Alors, éthique sur l'étiquette, s'il faut que je regarde chaque fois que j'achète quelque chose, si ça vient de l'Inde ou bien par des enfants, quand j'ai mon téléphone portable avec le coltran, ou bien le sucre ou l'OGM dans mes aliments. Vous croyez que vous allez nous rendre la vie?
Oui, mais quand on regarde, quand on demande aux gens qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce que vous aimez faire, les gens ils répondent jamais j'aime acheter des vêtements. Ils répondent j'aime faire du vélo, j'aime aller me promener dans la nature, j'aime discuter avec les gens. C'est ce genre de choses que les gens répondent et on affiche ça donc sur notre tableau là et on s'aperçoit que toutes les activités que les gens citent qu'ils aiment faire, bah, c'est des activités qui émettent pas du CO2, qui ne polluent pas.
Alors tout à l'heure, c'était les chefs d'État ou les journalistes qui disent rien ou n'importe quoi. Après, c'était chacun dans sa vie de tous les jours. Et maintenant, vous dites les gens, mais on avait parlé des syndicalistes. Et vous dites que c'est important la justice sociale aussi?
Alors oui, tout à fait. J'ai dit un chiffre tout à l'heure, je voudrais y revenir parce qu'il est très trompeur. En France, donc la moyenne, un Français émet 10 tonnes de CO2 par an. Mais c'est une moyenne et c'est très trompeur. Quand on regarde 50% des Français les plus pauvres, on n'est plus qu'à 4 tonnes. Ça veut dire 4 tonnes, donc on doit atteindre 2 tonnes, donc on n'est pas encore à l'objectif. Mais enfin, on est déjà à l'objectif de 2030 que s'est fixé le gouvernement. Donc on se rend compte que la moitié des Français qui sont les plus pauvres, ils sont déjà à l'objectif de 2030. Donc quand on demande à travers des lois telles que la taxe carbone à ces gens-là de faire des efforts alors qu'ils sont déjà dans l'objectif de 2030, c'est pas juste.
Oui, mais on demande à ce qu'il y ait moins de pesticides et puis 50 tracteurs bloquent complètement les routes de France. Où est le gouvernement? Où est la police? Et je me fais l'avocat, non pas du diable, mais du citoyen moyen qui n'en peut mais. Et vous nous dites, si, c'est possible, et la vie en rose. Alors, j'allais dire, nous sommes en carême, on va se mettre des cendres sur la tête, et puis on va faire comme Jonas, on va essayer de dire que Ninive se convertisse. Et puis le pauvre Jonas est déprimé, ce lanceur d'alerte, parce que quand il arrive, Ninive est déjà en train de faire pénitence. Alors moi, je vais prendre un autre champ, puisqu'on parle du carême et des cendres. Prenons la main que Dieu nous tend. Prenons la main, voici le temps où Dieu fait grâce à notre terre. Mais où il est, Dieu, quand on demande la paix ou quand on demande des exigences à tout le monde? Moi, comme sociologue, je suis interpellé par... c'est pas un fourre-tout, Dieu. Vous allez me dire, c'est pas votre problème, n'est-ce pas?
Oh, si.
Et vous avez même une citation, d'ailleurs, que j'avais bien aimée, qu'on mettra peut-être pas à la fin, mais que je pense que vous pouvez dire, du philosophe.
Dieu, alors c'est pas la formulation tout à fait exacte, mais c'est « Dieu se rit des hommes qui se plaignent des effets et chérissent les causes ».
Qui se plaignent
des effets.
Des effets.
Et chérissent les causes.
Alors revenons, s'il vous plaît, Alain, à ces calculs que vous nous proposez, oui. Parce qu'il va falloir que nos personnes qui nous écoutent vont peut-être se convertir.
Alors, on peut déjà effectivement parler au niveau du transport. Peut-être la première chose qui est facile à attaquer, si je puis dire, c'est l'avion.
Vous n'avez pas 2 heures, vous avez 2 minutes.
L'avion, sur Toulouse, déjà, on voit que ça va être difficile. C'est quand même la ville de l'aéronautique. Mais clairement, il va falloir faire un effort important là-dessus. Et ça tombe bien, ce n'est pas un effort qui va être fait par les gens les plus pauvres parce qu'ils prennent très peu l'avion. Donc, il va falloir faire un effort aux gens les plus riches pour qu'ils prennent moins l'avion. On a bien sûr la voiture qui comporte qui est une part importante. On est presque à peut-être 2 tonnes en moyenne rien que pour la voiture. Mais là encore, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire aux gens, vous n'allez plus utiliser la voiture. Il faut prévoir autre chose. Donc, il faut organiser la société pour qu'elle puisse offrir aux gens la capacité à se déplacer. Que ce soit à travers des pistes cyclables, à travers du transport à la demande, à travers des voitures partagées.
Ça veut dire que le vote au niveau local, comme au niveau départemental, est important. Alors, nous n'allons pas entrer ici. Oui. Il y a d'autres émissions de cette radio. Quand on parle des conflits au niveau de l'information, mais oui, donc ça a des répercussions non seulement aujourd'hui, mais aussi dans le vote. Et puis on a donc pas le nez sur le guidon, mais on voit loin.
Voilà. La première action, je dirais, au niveau écologique, la première action que tout le monde peut faire, c'est voter. Et sans cette action-là, ça ne servira à rien. Alors, bien voter, je ne vais pas vous dire pour qui voter. Mais rapidement, on verra qu'il y a un certain nombre de programmes qui ne sont pas compatibles de la préservation de la création.
Mais il y a des promesses qui ne seront pas tenues. Alors, il faut quand même faire confiance.
Oui, il y a ceux qui font des promesses et qui ne les tiennent pas, mais il y a ceux qui ne les font même pas.
D'accord.
Donc, on peut déjà faire un premier tri.
Alors, l'alimentation, je pense que c'est un autre thème aussi important pour vous.
C'est un thème important, oui. Alors, surtout en France. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que j'ai fait cet atelier donc, avec différents publics, protestants, catholiques d'ailleurs. Et l'alimentation, c'est quand même l'atelier le plus difficile. On sent qu'en France, on aime bien manger et on a envie de continuer à bien manger. Et c'est une bonne chose. On voit quand même qu'au niveau alimentation, la viande, et notamment le bœuf, ce qu'on appelle la viande, c'est surtout le bœuf, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas continuer à consommer autant. Donc, il va falloir faire effectivement des efforts là-dessus. Et c'est vrai que ce n'est pas très rigolo, c'est pas très vendeur, ça.
Et puis, c'est aussi les tensions à l'intérieur des ménages, entre les jeunes, les vieux, parfois les hommes et les femmes, parce qu'on n'a pas le même organisme. Et puis, j'osais dire qu'il y a la cache-route. Et puis, il y a la viande halal. Et alors là, on rentre aussi dans des débats infinis où, au nom de Dieu, nous allons encore nous interdire peut-être pas, mais il y aura le carême et le jeûne, et on va dire, ah ben ceux qui jeûnent, c'est bien pour leur santé, c'est pas les diabétiques qui sont en surdose ou en surpoids. Donc là aussi, ben, les médecins, vous nous demandez Alain, d'aller s'informer et puis d'oser peut-être certains changements.
Tout à fait, parce que à travers l'alimentation et la modification de notre alimentation, on peut gagner en santé. Et donc on peut, alors c'est un peu, on peut gagner en coût, parce que forcément si on gagne en santé, ça veut dire bah, moins de frais de santé, et ça veut dire une vie qui sera meilleure. Quand vous finissez votre vie en mauvaise santé, c'est pas super. Si vous la finissez en bonne santé, c'est bien mieux.
Et si je me brosse les dents, j'irai peut-être moins chez le dentiste. Mais bon, on a oublié le logement, parce que là nous allons encore avoir des débats à n'en plus finir, mais vous avez au moins deux idées sur le logement, entre ceux qui sont dans des passoires thermiques, et puis ceux qui vont pouvoir peut-être se faire avoir par tous ceux qui veulent vendre des pompes solaires. Non, je plaisante, là, des pompes oui. À chaleur, je ne sais pas.
Oui, c'est très intéressant le logement. Et là encore, on va réaborder, de toute façon, on ne peut que faire ça, on va réaborder la justice sociale. C'est bien d'avoir une maison très bien isolée, mais si elle fait 200 mètres carrés et que vous êtes deux dedans, elle a beau être très bien isolée, elle va finir par consommer.
Ben, les alors enfants que... sont partis, on ne va pas faire venir des migrants qui sont alors, sans
si,
papier.
Si, c'est possible,
si
ça,
vous
si.
Dites. Ben, écoutez, là, j'ai possible. Des auditeurs qui vont raccrocher leur poste, mais il nous reste...
Et là, on peut se référer à notre pape François.
Fratelli tutti.
Voilà, qui est pour l'accueil des migrants sans concession. Hein.
Et je me rappelle un film dernièrement au Temple, où c'est des personnes qui non seulement ont réussi au bout de 2 ans, ils venaient de Syrie. D'ailleurs, il y avait un très beau film pour dire on est allé chercher des livres sous les gravats pour reconstruire une bibliothèque alors que tous les bâtiments avaient été détruits. Mais là, c'est aussi cette solidarité internationale. Et nous savons qu'il y a des pays en Afrique où c'est des tensions très très dures, beaucoup plus que nous pouvons le penser ou en Europe, mais c'est un autre débat. La Ligue des droits de l'homme est déjà venue ici et bien d'autres. Oui. Donc, il nous reste le dernier des 4 pôles que vous nous aviez annoncé.
La consommation.
Oui, et il nous reste 2 minutes, mais vous avez votre sourire pour nous dire c'est possible. Passer de 10 tonnes à 2 tonnes, mais pas demain.
Non, pas demain. C'est ça, c'est pour 2050. Donc, il faut qu'on voit cet objectif à 2050. Et du coup, on sait comment s'y préparer.
Et nos enfants, nous leur transmettons un héritage qui est cette terre.
Oui. Et surtout, enfin, je reste convaincu que je ne souhaite pas transmettre le monde tel qu'il est à mes enfants. Je souhaite en transmettre un meilleur, un monde où mes enfants pourront aller dans la rue en vélo sans risque, pourront se promener partout en France facilement avec des trains, des transports en commun. Je suis persuadé que ce monde-là, il sera meilleur et leur proposer tout plein d'activités. Comme danser, jouer faire des jeux de société, faire du vélo, tout ça, ça ne consomme pas. Et ça lèvera le nez des écrans qui sont quand même très dommageables pour la santé.
C'est ce que nous disent aussi certains éducateurs, non seulement dans l'école, la responsabilité des écoles. Parfois, ce sont nos enfants ou nos petits-enfants qui nous disent « Mais papy, pourquoi tu n'as pas mis ta ceinture de sécurité ?»«
Oui.
Mais papy, pourquoi à l'école on m'a dit ?» Alors, effectivement, je crois qu'il faut être un peu modeste. Et j'aime bien que vous nous rappeliez, dans cette bonne revue étude que vous nous avez apportée, ce texte de Pierre Caille qui nous explique sans doute sauver le développement durable. Alors, je cite la revue étude, mais ça pourrait être Christus ou bien d'autres revues, parce que je crois que ce soit dans les magazines chrétiens ou autres, il y a vraiment de quoi s'informer et de ne pas dire comme l'autruche, ah, je ne savais pas, j'ai rien vu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Pierre Caille?
Alors, je cite, « Le consensus autour de l'urgence politique n'a jamais été aussi grand. Mais les résultats des politiques pour y faire face restent décevants. Face à la remise en question du développement durable, ne faut-il pas déplacer l'accent sur le durable plutôt que sur le développement ?»
Alors ça dépasse la question du dialogue interreligieux. C'est le citoyen et heureusement, vous nous dites que la vie est belle avec Alain Souchon. Et vous nous avez apporté une petite plage musicale que Christophe va nous apporter. Merci. Merci Alain de ce message d'espoir, mais aussi de cette alerte.
Merci, merci à tous. It's turning red, take a look at